Vous écoutez
RMC.
8h sur RMC et RMC Story. Très bon réveil à toutes.
RMC, Apolline Matin.
C'est l'heure d'un nouveau journal avec Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous. On vous raconte déjà ce matin ce qui va se passer en fin de journée à 400 000 km au-dessus de nos têtes avec la mission Artemis de la NASA qui va faire le tour de la Lune et apercevoir des parties qu'aucun œil humain n'a jamais vues à ce jour. Pendant ce temps sur Terre, une station sur cinq, vous verrez, est en rupture d'au moins un carburant. Donald Trump repousse encore son ultimatum pour débloquer le détroit d'Hormuz. Et on va vous donner toutes les dernières infos sur la tournée événement de Céline Dion à Paris. Vous saurez aujourd'hui si vous avez accès à la prévente et vous verrez qu'il y a des arnaques à éviter.
Et on assiste en temps réel à un grand moment de la conquête spatiale.
Oui, la NASA nous dit ce matin que les quatre astronautes qui se sont envolés vers la Lune la semaine dernière sont entrés tôt ce matin dans la dernière ligne droite. Romain Houk pour RMC. On se passionne pour cette mission Artemis de la NASA. C'est la première depuis plus de 50 ans. Et c'est donc aujourd'hui que les astronautes vont faire le tour de la Lune.
Heures pendant lesquelles les astronautes seront au plus près de la Lune, à environ 6500 km. À titre de comparaison, les pionniers d'Apollo étaient passés, eux, à peine 110 km de la surface lunaire. Mais c'est une mission dont les objectifs sont différents et à cette distance de plusieurs milliers de kilomètres, elle a tout son intérêt. Elle permet à l'équipage d'avoir une vue complète de l'astre, notamment des pôles, et puis surtout d'observer des régions qui n'ont été jusqu'ici prises en photo que par des robots sur la face cachée de la Lune. Là, ce sera un peu le point d'orgue de cette mission, un moment où tout le monde retiendra son souffle puisque derrière la Lune, le vaisseau ne parviendra plus à communiquer avec la Terre. Ce sera silence radio pendant une quarantaine de minutes. La diffusion en live de leur mission sur YouTube sera elle aussi évidemment coupée. Les astronautes devront alors prendre des notes, des photographies de tout ce qu'ils voient afin de les restituer au mieux lorsque les communications reprendront enfin. Ils ont reçu ces dernières années une formation en géologie pour être le plus précis possible et ainsi permettre d'en savoir un peu plus, notamment sur la composition et l'histoire de notre satellite.
Et alors évidemment, on vous racontera demain matin sur RMC. Alors depuis là-haut, peut-être qu'on pourra nous dire où est-ce qu'il est possible de trouver du carburant ce matin. C'est pas la pénurie, mais écoutez bien quand même, entre vendredi et aujourd'hui, on est passé de 12% à 20% des stations-service dans lesquelles il manque au moins un carburant. C'est ce que vient de nous dire sur RMC le président de l'UFIP, qui est l'Union Française des Industries Pétrolières. Ce sont surtout les stations Total, vous vous en doutez bien, qui sont touchées avec l'opération prix bloqué. Et alors certains sont obligés de faire tout un tour pour trouver essence ou gazole. C'est ce que nous dit Lou Garnier en région parisienne pour RMC.
Dans cette station-service, rares sont ceux qui s'arrêtent.
Il n'y a plus rien, vous le voyez bien, il ne reste que du E85, c'est de l'éthanol ça. Voilà ce qui reste.
Mehdi fait le tour des stations Total Énergie pour trouver du gasoil. Jusqu'à demain, le litre est bloqué à 2,09 €.
Vous voyez, là je suis à Argenteuil, des fois il faut que j'aille à Nanterre. Des fois, il faut que j'aille même sur Paris même.
Une boucle d'une vingtaine de kilomètres.
Vous tournez, vous cherchez une station, donc vous consommez encore plus.
Il a explosé, moi, le budget.
Depuis vendredi, Sofiane vient tous les jours dans l'espoir de pouvoir faire le plein. Mais sans succès, avec ce qui lui reste de carburant, il peut faire
20 kilomètres max. J'ai plus de gasoil.
Comment vous allez faire?
Je garde la voiture.
Pour rentrer chez lui, il va devoir prendre le train. À quelques kilomètres de là, Jordan a trouvé une station du groupe avec du carburant.
Kev, combien je mets?
Et ce n'est pas dû au hasard. Il a téléchargé une application qui lui indique les bonnes adresses.
Elle vous dit s'il y en a, s'il n'y a pas, combien c'est à peu près. On essaye de trouver du gasoil un peu. Là, j'étais à un quart, je suis venu direct.
Son budget essence a augmenté de 300 € ce mois-ci. Il l'avoue, si la situation perdure, il remplira des bidons de carburant pour faire des réserves.
Alors jusqu'à quand ça va durer? Donald Trump repousse encore son ultimatum. L'Iran a jusqu'à précisément la nuit de mardi à mercredi pour débloquer le détroit d'Hormuz. Sinon, Donald Trump promet l'enfer. C'est ce qu'il a dit. On verra s'il tient parole. Ça s'ajoute à la longue liste de messages contradictoires de la part du président américain. Celui-là est truffé d'insultes. Il a écrit ça sur son réseau social. L'Iran, pendant ce temps, menace de représailles, je cite, dévastatrices.
Il est 8h04 sur RMC. On reparle des dégradations à la mairie de Fresnes.
Oui, souvenez-vous des 10 jeunes qui ont été mis en examen la semaine dernière pour avoir saccagé la mairie juste avant le conseil municipal d'installation du nouveau maire de droite dans cette ville de région parisienne. Eh bien, Pierre Bazin, du service police-justice à RMC, parmi eux, deux mineurs ont à nouveau été interpellés. Ils ont caillassé une voiture de police cette fois.
Oui, avant leur nouvelle interpellation, les deux mineurs de 16 ans étaient pourtant sous contrôle judiciaire avec une interdiction de paraître autour de la mairie de Fresnes, d'entrer en contact l'un avec l'autre et surtout, ils étaient soumis à un couvre-feu entre 22h et 7h du matin. Leur placement en garde à vue pour ces faits nouveaux moins de 24h après leur présentation devant le juge consterne Frédéric Le Cohente. Il est le représentant du syndicat Alliance Police dans le Val-de-Marne.
Le système judiciaire ne permet pas de sanctionner ces mineurs qui ont le sentiment d'impunité. Ce sont des délinquants. Ils ont commis des dégradations extrêmement importantes qui ont occasionné un préjudice de plus de 75 000 euros. Ils ont été déférés le jeudi soir dans le cadre de l'enquête. Et vous voyez que le lendemain, ces mêmes individus n'ont peur de rien et s'en prennent à mes collègues. Parfois, nous avons même des jeunes qui ont 13, 14 ans. Il faut absolument que ces mineurs retrouvent un cadre. Il faut leur donner des normes et des valeurs.
En attendant d'être jugé le 8 juillet prochain, l'un des deux mineurs mis en cause doit faire l'objet d'un suivi par un éducateur de la protection judiciaire de la jeunesse.
On est lundi matin, il est 8h05. Tendez bien l'oreille si vous voulez des places pour les concerts de Céline Dion à Paris.
C'est la première échéance aujourd'hui pour les 9 millions de personnes qui se sont inscrites au tirage au sort des préventes. Échéance parce que c'est à partir de ce matin que les heureux élus vont savoir s'ils sont retenus pour accéder à ces fameuses préventes pour les 10 concerts de septembre et d'octobre dans la capitale. Amélie Courtet, pour RMC, vous nous donnez toutes les infos, ce qu'il faut savoir et ce qu'il faut éviter aussi.
C'est par mail que les fans tirés au sort recevront la bonne nouvelle, un accès à la prévente des billets pour voir Céline Dion en concert. Prévente qui débutera dès demain 10h, une aubaine pour les arnaqueurs.
On est dans une zone de risque maximale.
Alerte Jérôme Billois, expert en cybersécurité.
Ceux qui ont été présélectionnés vont recevoir un email. Les fraudeurs le savent très bien, donc ils vont eux-mêmes envoyer des emails avec certainement des textes incitant à agir très très rapidement en disant vous avez été sélectionné, vous avez 15 minutes pour valider votre billet. Cliquez ici, mettez votre numéro de carte bancaire.
Déjà, après l'annonce du retour de la star mondiale, des fausses billetteries ont fait leur apparition. Plusieurs fans se sont fait arnaquer des centaines d'euros.
Les fraudeurs sont montés en gamme et leurs arnaques aujourd'hui sont de plus en plus difficiles à déceler.
Alors comment ne pas se faire avoir ?
Il va falloir être extrêmement attentif sur les adresses d'expédition des mails. Et donc à nouveau, on ne clique pas sur les liens dans les mails, mais on tape soi-même l'adresse des sites officiels qui sont indiqués sur le site de Céline Dion.
C'est-à-dire AXS, Ticketmaster ou Fnac Spectacle. Dessus, il faudra débourser entre 90 et 300 euros pour voir la chanteuse canadienne à Paris, la Défense Arena.
C'est aussi ce matin qu'ouvre la billetterie pour le match de rugby que tout le monde attend. Ce sera dimanche, Bordeaux contre Toulouse en quart de finale de Champions Cup. Une finale avant l'heure en quelque sorte, revanche de l'an passé. Il y a Toulon qui jouera la veille samedi contre Glasgow. L'autre info du jour en rugby, c'est Toulouse qui est convoqué fin mai devant la commission de discipline de la Ligue Nationale de Rugby pour ne pas avoir respecté les règles du plafond salarial sur 3 des 4 dernières saisons. Règles ouvertement contestées par Toulouse qui a déjà été sanctionné 3 fois depuis 2023. Et ce matin, je vous signale aussi que Marseille n'est plus sur le podium de la Ligue 1 en football au lendemain de sa défaite de Buzyn à Monaco pour la fin de la 28e journée. C'est Lille qui en profite pour grimper à la 3e place.
Merci beaucoup Quentin Vinet, c'était le journal de 8h sur RMC. Il est presque 8h08 et on retrouve Emmanuel Le Chypre. Bonjour Emmanuel.
Bonjour RMC, à tous. Apolline Matin.
Le Chypre d'affaires.
C'est l'heure de parler économie et fiscalité. Emmanuel, les aides à domicile vont coûter plus cher aux plus de 70 ans ?
Effectivement, aujourd'hui, à partir de 70 ans, les seniors sont dispensés de payer des cotisations patronales lorsqu'ils emploient des aides à domicile pour faire le repassage, le ménage, le bricolage ou la cuisine, ce qui leur permet d'économiser à peu près 2 à 3 euros par heure employée. Si vous utilisez les services d'une aide à domicile 10 heures par semaine, ça vous fait à peu près 20 à 30 euros par semaine. Mais le gouvernement a décidé d'augmenter cet âge à partir duquel les seniors peuvent bénéficier de cette exonération sans autre condition. Et donc, ce ne serait plus 70 ans, mais il faudrait avoir 80 ans au moins pour bénéficier de cette exonération. C'est une disposition qui est prévue dans la loi de finances pour 2026 et qui va faire l'objet d'un décret dont la publication est imminente.
Mais pourquoi supprimer cet avantage ?
À la base, cette exonération de charges, c'est une aide pour un public fragile en voie de dépendance ou à faibles ressources, mais l'espérance de vie s'est beaucoup allongée et vu qu'elle est sans condition de revenus ni de fragilité, elle profite désormais à beaucoup de retraités en bonne santé qui auraient parfaitement les moyens de se payer des aides aide à domicile, même sans allègement de cotisation. Alors attention, vous n'êtes pas concerné hein, si vous êtes, par exemple, si vous avez l'allocation handicap, personne handicapée ou des choses comme ça. Mais ce serait quand même à la clé une économie de 100 millions d'euros pour les finances publiques, sachant que les emplois à domicile, hein, c'est quand même la deuxième niche fiscale en termes de coûts, presque 7 milliards, et la neuvième en nombre de bénéficiaires, presque 5 millions de ménages. Alors attention.
Mais oui, c'est surtout le... Pardon.
Non, le dispositif principal, hein, vous savez, de cette aide fiscale qui est le crédit d'impôt de 50% sur les dépenses engagées, tout ça, ça bouge pas. Ça représente à peu près 1 000 à 1 200 euros.
Nous, quand on a une nounou, on paye des cotisations patronales.
Ah bah absolument, vous payez les cotisations patronales. Là, c'est vraiment pour les plus de 70 ans qui ne payaient pas ces cotisations patronales. Bah, si vous utilisez 10 heures par semaine, ça peut faire une somme substantielle. Donc, vous savez à quel point...
La niche, le chien, tout ça
non, mais on sait que ces emplois à domicile sont quand même très sensibles aux aides. Donc forcément, il y aura un petit impact sur l'activité et il y a quand même des ménages qui utiliseront un peu moins ces services.
À suivre. Emmanuel, quelle tendance ce matin pour les prix de l'énergie? Vous surveillez tous les jours et vous nous donnez ces chiffres à 8h?
Bien, le gazole, ça monte. 2,30 € le litre contre 2,26 € vendredi. Le samplon 95, on est à 2,01 € contre 2 vendredi. Le pétrole, ça fait depuis la mi-mars qu'il est dans un couloir de 100-110 €. Là, on était à 109,65 € ce matin, après 3 jours de fermeture et donc 3 jours de non-cotation. Et puis le tarif du gaz, c'est 50 € le mégawatt-heure. C'était 45 là, en fin de semaine dernière. Mais ça reste sous contrôle pour le moment.
Reste sous contrôle, mais haut tout ça.
Oui, absolument.
Merci Emmanuel.
On verra ce soir, on décide un cessez-le-feu. En Iran, là, je peux vous dire.
Ah non, on va faire du teasing sur Donald Trump, va parler, etc. Moi, j'attends qu'il parle.
Ah oui, on va attendre, mais si jamais il y a quelque chose qui se concrétise, là, on verra.
Ah ben, si jamais.
Donc, regardez, surveillez quand même en cette fin de week-end ce que va dire.
Merci, Emmanuel Chiffre. Emmanuel Le Chiffre, il est 8h11. I'm
free. Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Dans un instant, Arnaud Demange nous rejoint. Et puis à 8h30, l'invité du face-à-face ce matin, c'est l'ancien commissaire européen Thierry Breton. Et puis juste après, face à Canteloup, Nicolas Canteloup, qu'on retrouve à 8h50. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Et bonjour. Il est 8h14 sur RMC. Et RMC Story. Et bonjour, Arnaud Demange.
Bonjour, Mathieu Béliard. Bonjour, les petits amis. J'espère que Pâques s'est bien passé. Pâques, donc la fête qui célèbre la résurrection de Jésus, qui a été ramené à la vie par le lapin de Pâques. Et c'est pour ça que je vous dis, on a des œufs dans le jardin. Alors, vous avez peut-être caché des œufs dans le jardin. Les lapins pondent les œufs, c'est bien connu. Moi, j'ai vu le prix du chocolat, j'ai caché directement des billets de banque dans le jardin. Je ne savais pas qu'on importait le chocolat directement depuis le détroit d'Ormuz. On en apprend des trucs. Chez les Le Chypre, on a caché des actions Total Energy dans le jardin. Billets en forme de lapin, en forme de cloche. Le petit Kevin Le Chypre était ravi.
Oh, papa, fallait pas. Vivement les dividendes en janvier prochain.
Oh Kevin, ne sois pas trop gourmand.
Et dans le manoir Béliard, tiens donc. Mathieu a proposé à ses enfants un menu Pâques en 3 itérations. Voyage autour de l'œuf, avec en entrée œuf de poule élevé en introspection, cuit sous foin biologique pendant 63 minutes, nuages de coquilles torréfiées et pluie de sel fossile.
Ça a l'air dégueu.
Non, non, mon chéri, ne perce pas le jaune tout de suite, laisse-le te raconter son histoire. En plat, déconstruction ovoïde en tension thermique, battue à la japonaise qui nous réinterroge sur le concept même de l'omelette. Et en dessert, œuf inversé, blanc caramélisé, jaune glacé à la spéculation de vanille, pour un plat expérience qui respecte néanmoins toutes les normes européennes sur l'aviculture.
On peut aller à McDo ?
Tu manges ! Tu manges ! Bref, le lundi de Pâques, c'est le premier jour férié du printemps, alors on va pas se mentir, on est un peu moins motivé pour travailler, voilà, on est un peu relâché, personne s'est douché ici, le plateau, on dirait la régie.
Salut la
régie. Et ils ont laissé les lumières allumées, c'est sympa. On m'entend ? Le micro marche toujours ? Oui, le micro marche toujours. Et ce week-end, plus de 13 000 adultes se sont fait baptiser pour Pâques. C'est 28% de plus que l'an passé. Un baptême d'adulte, c'est quand même un peu moins mignon qu'avec un bébé, quoi. Maurice, 53 ans, tout nu dans les bras du prêtre, qui lui plonge la tête dans une piscine d'Oménite. Bon, l'avantage, c'est qu'il y a très peu de prêtres qui essayent d'en profiter de celui-là. Un ancien rugbyman de 53 ans, barbu, qui fait 100 kilos. Enfin, si t'essayes, t'essayes qu'une fois, en fait. Tu ne prends pas de risque.
Bon, le prix du carburant, le prix des carburants qui continue de flamber.
Oui, on est à plus de 2 euros le litre. Mais alors, si t'écoutes les politiques et les industriels, il se passe un truc marrant. Le carburant, ça ne rapporte rien à personne. Ouais. Non, c'est pas pour nous. Non. Rien à l'État, rien aux raffineurs, rien aux distributeurs. C'est vraiment la seule industrie où personne ne fait jamais de bénéfice. Alors, merci. Merci à tous ces bénévoles de chez Total, BP, Esso, qui se lèvent tôt pour extraire du pétrole, l'exporter, remplir nos réservoirs pour le seul plaisir, le bonheur de voir un sourire sur le visage d'un père de famille quand il fait le plein de la Mégane. Merci aux actionnaires solidaires, merci aux financiers désintéressés qui investissent à perte, Mathieu, dans cette industrie pétrolière pour que on puisse emmener nos gamins au foot, même si tu dois vendre un rein pour faire le plein de la Dacia. Je propose qu'on applaudisse les pétroliers. Bravo. À 20h au
foot. Elle est électrique.
Elle est électrique. Ah, il a trouvé la bonne combine.
Donald Trump a exhorté l'Iran à rouvrir le détroit d'Hormuz en ces termes, je cite, rouvrez ce putain de détroit, espèce de sale bâtard.
Oui, il l'a vraiment dit. Hein,
il l'a vraiment, ouais, on hein, traduit comme on veut, les bâtards, les tarés, c'est un langage de président.
Bastards. Quand on pense qu'on s'emmerdait à un point délirant en diplomatie avant, tous les diplomates se prenaient la tête. Est-ce que tu crois, si on dit nous demandons à la grande civilisation iranienne de réfléchir aux conséquences des blocages d'un détroit essentiel pour la coopération mondiale, c'est peut-être un peu agressif, non, je sais pas, peut-être nous alertons la civilisation. Bah, Trump, il s'emmerde pas. Bande de connards, rouvrez ça tout de suite. Et derrière, il y a BFM qui doit commenter ça. Imaginez où ils en seront dans 2 mois. Hein. Et Donald Trump qui vient de déclarer que ces couilles molles d'Iraniens doivent rouvrir ce détroit de merde. Des propos qui ont fait bondir plusieurs généraux américains. Et alors on le voit à l'image, hein, le président les a réunis à la Maison Blanche et il est en train de leur uriner dessus. Général Pellistre en dit. Oui, une image qui rappelle celle du mois de mai. Hein. On se souvient que le président avait reniflé et craché un gros molar jaune sur la cravate du secrétaire général de l'OTAN. Oui, alors que peut-on déduire de ce geste ? Probablement un début de rupture diplomatique. Ah oui, priorité au direct. J.D. Vance est en train de faire l'hélicobite à l'ONU. Est-ce qu'on peut y voir un signe de détente ? Alors bref, Trump a annoncé qu'il allait bombarder l'Iran demain si le détroit d'Hormuz n'était pas rouvert. Il y a 2 jours, il nous disait que la guerre était finie. 2 jours avant, il voulait envoyer des troupes au sol. 2 jours encore avant, la guerre était finie. Trump, c'est Philippe Catherine, quoi. Nous regarder faire la guerre et je coupe la guerre et je remets la guerre et je coupe la guerre et je remets la guerre. Et bon lundi.
Ah ouais, bon lundi, là oui, il y a une grosse production hein, pour un Jean Perrier. Merci Arnaud. Arnaud qu'on retrouve en podcast et en tournée bien sûr dans toute la France. On va accueillir Cathy qui est en ligne avec nous dans les Alpes-Maritimes et qui réagit à notre voix de droite, Louis Sarkozy à 7h50 tout à l'heure. 3 Français sur 4 qui voudraient avoir la liberté de travailler le 1er mai, sondage de la Confédération des petites et moyennes entreprises. Bonjour Cathy, vous êtes fleuriste.
Bonjour.
Tiens. Voilà, vous étiez au cœur de ce débat. Les boulangers et les fleuristes étaient au cœur de ce débat depuis de nombreux mois, Cathy. Vous êtes à votre compte ou vous êtes salarié ?
Non, je suis à mon compte et j'ai des salariés.
Vous êtes à votre compte, vous avez des salariés. Et vous ne pouvez pas ouvrir parce que vous ne pouvez pas faire travailler vos salariés.
Alors, vous savez, à Nice, on appelle ça, moi, il me vient la stoufia ou la bouffaïs. C'est-à-dire qu'on en a un peu marre de ces discours faits par des gens qui ne savent pas ce que c'est que l'artisanat, que ce soit nous, les fleuristes ou les boulangers, qui ne savent pas ce que c'est que se lever. Par contre, on autorise en France, ce jour-là, les vendeurs à la sauvette qui, eux, ne vont pas payer d'URSSAF, n'ont pas d'employés, ne vont pas reverser la TVA. Et nous, qui travaillons toute l'année, qui faisons travailler toute une chaîne, que ce soit nos employés, que ce soit les horticulteurs, nous, ce jour-là, on dit « Ah non, madame, vous ne pouvez pas travailler ». Alors, faut arrêter, on marche sur la tête.
Traditionnellement, on allait ramasser le muguet qu'on avait cueilli. Alors, je sais que j'ai une vision un peu bucolique de l'histoire. Et c'était, ouais. En général, il n'y a que le Parti communiste qui avait le droit de travailler le 1er mai.
Exactement. Ah, ouais. Curieux.
Enfin, ça, c'est au siècle dernier. Parce que maintenant, vous savez que c'est des filières entières de gens qui achètent le muguet qui, chez les grossistes et qui le vendent devant. Moi, ça m'est arrivé devant mon magasin de devoir faire intervenir la police municipale pour faire. Alors, vous devez déambuler, vous ne devez pas être fixe. Et c'était pour gagner 3 francs 6 sous. Maintenant, il faut savoir que quand même, les gens qui vendent du billet, c'est des bancs entiers. Et c'est
quand on installe une table, machin, qu'on est branché et tout, ça, c'est interdit.
Vous n'avez pas le droit. C'est interdit. Par contre, c'est compliqué de faire intervenir quelqu'un parce que l'inspection du travail de 1er mai, ils sont capables de venir dans vos magasins, d'aller dans les boulangeries. Mais ils ne sont pas capables d'aller voir les vendeurs à la sauvette.
Non mais voilà. Cathy, alors on va réviser les règles des vendeurs à la sauvette, et en tout cas le 1er mai c'est le prochain jour férié, c'est pour ça aussi qu'on en parle aujourd'hui, c'était dans la tribune dimanche hier avec ce sondage de la CPME, dites-nous au 32-16, alors Cathy est fleuriste, c'est sa boutique, les salariés, dites-nous la question du volontariat qui est quand même posée aussi, on va en débattre, on vous attend au 32-16, n'hésitez surtout pas. 8h22 dans un instant sur RMC BFM TV, l'invité de Guillaume Daret, c'est l'ancien commissaire européen Thierry Breton, c'est le face-à-face.
Merci d'écouter RMC, 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Rachel Sadodine.
Donald Trump repousse à nouveau son ultimatum. Il laisse 24 heures de plus à l'Iran pour ouvrir le détroit d'Ormuz. Et si les Iraniens n'obtempèrent pas, c'est simple. Le président américain menace de tout faire sauter. Donald Trump qui multiplie les insultes sur les réseaux sociaux. L'Iran répond ce matin affirmant qu'attaquer des sites civils relèverait du crime de guerre. Le chausseur Minelli à nouveau placé en redressement judiciaire. 2 ans et demi après une procédure identique qui avait conduit à la suppression de 400 emploi et à la reprise de l'entreprise. 200 employés risquent actuellement leur poste. La mission Artemis est entrée ce matin dans sa dernière ligne droite. Les 4 astronautes sont désormais dans la sphère d'influence de la Lune et devraient voir aujourd'hui la face cachée de notre satellite. Une première pour l'homme. C'est l'heure de vérité pour les fans de Céline Dion. Vous êtes 9 millions à vous être inscrits pour espérer pouvoir participer aux préventes et ainsi peut-être décrocher un ticket pour l'un des 10 concerts que donnera la star cet automne à l'Accor Arena de Paris. Si vous êtes tiré au sort, seulement les mails vont commencer à arriver aujourd'hui. Marseille battu 2-1 par Monaco en clôture de la 28e journée de Ligue 1 de football. Coup dur pour les footballeurs marseillais qui perdent leur place sur le podium provisoire. Ils sont 4e ex aequo au nombre de points avec donc Monaco. La météo, l'anticyclone gonfle sur la France avec un temps calme et ensoleillé. L'après-midi sera très douce sur l'ensemble du pays. Entre 15 et 23 degrés au nord jusqu'à 30 degrés dans le sud-ouest. La maximale pour Biarritz.
C'était le rappel des titres de Rachel Sadodine. Dans un instant, l'ancien commissaire européen Thierry Breton, l'invité de Guillaume Daret dans le face-à-face sur RMC et BFM TV.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face-à-face.
Bonjour à tous, il est 8h29, vous êtes sur BFM TV RMC. Mon invité ce matin, c'est Thierry Breton. Bonjour Thierry Breton. Bonjour. Ancien commissaire européen, ancien ministre de l'économie. Merci d'avoir accepté de répondre à mes questions ce matin. Alors Donald Trump, le président américain, va tenir ce soir à 19h une conférence de presse depuis la Maison Blanche. Une conférence de presse, bien sûr, à suivre en direct sur BFM TV. Est-ce que Donald Trump peut tirer profit politiquement de l'incroyable opération de sauvetage des 2 pilotes américains dont l'avion avait été abattu en fin de semaine dernière?
Pour lui, cette opération, qui était encore une fois nécessaire, elle est nécessaire parce que, encore une fois, dans la doctrine américaine de l'engagement de combat, quand un pilote tombe derrière les lignes, on va toujours le rechercher. Donc, il n'avait pas le choix. Mais vous avez raison, c'était un peu politiquement, on va dire, quitte ou double. Alors, il faut se réjouir, évidemment, que les forces américaines, dans une opération tout à fait exceptionnelle, n'en doutons pas, elle donnera certainement lieu à un nouveau blockbuster à Hollywood dans quelques années. Vous vous souvenez, comme alors quand la pièce était tombée du mauvais côté, la chute du Faucon Noir en Somalie, absolument, à Mogadiscio, avait été aussi un blockbuster. Parce qu'au fond, ça c'est l'Amérique triomphante, l'Amérique qui gagne, mais c'est l'Amérique qui gagne sur une opération ponctuelle. Alors bien sûr, ça lui ouvre un espace politique. Il aurait pu, si jamais, et on se réjouit encore une fois que ça n'ait pas été le cas, le pilote n'avait pas été retrouvé ou il avait été emprisonné par les Iraniens, on imagine le drame et le traumatisme que ça aurait créé aux États-Unis, mais dans le monde aussi. Bon, c'est tombé du bon côté, on s'en réjouit. Il a donc une fenêtre politique. La question, c'est de savoir ce qu'il va en faire. Alors il y a cette conférence de presse, vous avez raison. N'en doutons pas, il va certainement glorifier... Alors, à juste titre, ce qui s'est passé, on va avoir sans doute moult détails. Maintenant, pour le reste, Bah, la guerre est toujours là.
Et justement, dans le même temps, Donald Trump a repoussé à mardi soir l'ultimatum qu'il avait fixé à Téhéran pour rouvrir le détroit d'Ormuz, sans quoi il menace, je cite, de déchaîner les enfers sur l'Iran. Comment comprendre le nouveau report de cet ultimatum? Il avait déjà été reporté de 10 jours. Comment interpréter cela? Est-ce que c'est un signe de faiblesse du président américain?
Mais Guillaume Daret, parce qu'aujourd'hui, ceux qui ont les clés, et je vais le dire de façon très simple et avec le plus de hauteur de vue possible, ce sont les Iraniens, qu'on le veuille ou non. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont ce matin à votre micro. On avait imaginé que cette opération, dont personne du reste n'a très bien compris les buts de guerre américains. On connaît parfaitement les buts de guerre israéliens, on les comprend. Israël était dans le collimateur, si je puis dire, des Iraniens depuis maintenant des dizaines d'années. Bon, très bien, ils avaient juré leur perte, donc ils avaient intérêt évidemment à mener une guerre pour se défendre. Mais les États-Unis, qu'est-ce qu'ils sont allés faire, si ce n'est répondre à la sollicitation de Benjamin Netanyahou. Tout le monde le sait maintenant. C'est ça ce qui s'est passé. Les buts de guerre, ils changent tous les deux jours. Donc évidemment, les Iraniens, ils se sont maintenant organisés. On se rend compte, peut-être un peu tard, que depuis 40 ans, ils se préparaient à ça. Ils sont organisés un peu en alvéole. Oui, bien sûr, il y a eu, je dirais, cette décapitation au plus haut sommet de cet état mollah, dont on veut tous, du reste, qu'ils disparaissent, bien entendu. Est-ce qu'il a disparu, Guillaume Daret? Non, mais il est toujours là.
Comment comprendre ce, si j'ose dire, ce pas de deux permanent de la part du président américain entre la foi, la menace de faire déferler un enfer sur l'Iran et en même temps le fait de dire qu'un accord n'a jamais été aussi proche?
Mais il faut jamais écouter, encore une fois, il parle aussi au marché, on va y revenir dans un instant. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les Iraniens se sont organisés et ils sont pas seuls. On s'en rend compte maintenant.
Qu'est-ce qu'on voit? Ils sont autour d'une nouvelle alliance?
Mais bien entendu, cette nouvelle alliance, elle est avec qui? Avec ceux qui soutiennent l'Iran. Comment l'Iran fait-elle pour continuer à renouveler en permanence ses stocks de missiles? Ils en fabriquent à peu près 100 par mois. Comment l'Iran fait-elle pour renouveler en permanence ses stocks très abondants de drones? Ils en fabriquent des centaines, voire des milliers.
Une alliance avec qui?
Avec la Chine, bien entendu. C'est la Chine qui fournit l'ensemble des composants, en particulier le propergol, c'est-à-dire ceux qui vont permettre aux missiles d'être propulsés. C'est la Chine qui fournit les composants électroniques, qu'ils ont, du reste, c'était bien souvent dérivé technologie duale d'entreprises occidentales. C'est la Russie qui fournit le savoir-faire maintenant extrêmement sophistiqué sur les drones. C'est la Chine qui fournit les systèmes qui vont permettre de guider ces missiles, notamment à travers l'entreprise Baidu, c'est l'équivalent de notre GPS. C'est la Corée du Nord qui fournit l'architecture et le savoir-faire en matière balistique. Donc oui, tout ça aujourd'hui est en train de s'organiser. J'ajoute que le détroit d'Ormuz, bah, il n'est pas fermé pour tout le monde. Puisque le détroit d'Ormuz, désormais, il y a une diplomatie qui se remet en place dans la région maintenant, pardon, mais autour de l'Iran. L'Iran vient de négocier avec, tenez-vous bien, les Philippines, si proches des États-Unis, avec la Thaïlande, avec le Vietnam, tout simplement pour refaire passer les bateaux. Et on voit qu'il y a cette diplomatie qui se remet en place. Et aujourd'hui, force est de constater que ceux qui ont les clés, et je le dis, ça ne me réjouit pas, bah c'est plutôt l'Iran.
Mais alors attendez, je vous arrête une seconde sur ce que vous venez de dire. Ça veut dire quoi? Que l'Iran, paradoxalement, même si ce pays est frappé depuis des semaines, est désormais politiquement plus fort qu'avant la guerre?
Eh ben, en tout état de cause, l'Iran est rentré dans une guerre qu'on appelle la guerre asymétrique. C'est-à-dire que, bien entendu, en face, on a les meilleures armées du monde, la meilleure armée du monde, on a les meilleures technologies du monde. Et on l'a vu encore une fois pendant le week-end pour aller récupérer ce colonel derrière les lignes. Mais derrière, on a effectivement, pour se défendre, bah, les missiles Patriot, vous savez, tout le monde en a entendu parler. Ça coûte entre 1 et 2 millions d'euros, de dollars, pardon, pour taper, ou pour faire abattre des drones à 30 000 dollars. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Bah, les réserves sont en train de s'amoindrir aujourd'hui. Songez que depuis le début des hostilités, c'est 2 années de fabrication des Patriotes qui ont été consommées. Et le Pentagone commence à s'inquiéter. Les réserves sont en train de faiblir. Et pendant ce temps-là, l'Iran est dans une logique de flux. C'est ce qu'on appelle une guerre asymétrique. L'Iran s'y est préparé. Donc oui, il est temps pour Donald Trump, qui par ailleurs est sous pression, sous une très forte pression aux États-Unis, en particulier de la part des électeurs et en particulier de la part des consommateurs.
Des électeurs, est-ce qu'il est sous la pression des militaires aussi? Est-ce que ces hésitations que l'on voit, ça témoigne d'une lutte entre, en coulisses, entre d'une part les politiques
et d'autre part les militaires.
Mais tout ce dont on parle ce matin ensemble, Guillaume Daré, les militaires le savent bien mieux que vous et moi. Évidemment, ils n'étaient pas pour cette guerre. Ils savent, vous savez, à Washington, on dit une chose, ça m'avait beaucoup marqué. Maintenant, je peux plus aller, hélas, pour quelque temps aux États-Unis. Je le regrette, du reste.
Interdit de territoire par les Américains.
Mais du temps où j'y allais souvent, je voyais souvent les think tanks, et ils disaient, vous savez, le problème des guerres éclairs, c'est les trois premières années. On sait aux États-Unis que quand on se lance dans une guerre éclair, c'est jamais de bon adage. Et donc, effectivement, les militaires américains n'étaient pas pour. Du reste, ceux qui manifestent, je dirais, leur inquiétude ou leur velléité de ne pas suivre les foucades du président américain, je pense en particulier au chef d'état-major de l'armée de terre,
virer, sont limogés.
Absolument. Donc, voilà. Donc les militaires, eux... Alors, la bonne nouvelle, pour revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que comme Donald Trump vient incontestablement de remporter, un succès politique aujourd'hui, parce que l'effet drapeau aux États-Unis, ça compte. Et le fait qu'on ait réussi à sauver ce colonel de l'armée de l'air, c'est très important. Ça remet les militaires, je dirais, au centre du jeu. La chef de cabinet, Madame Wills, qui semble être l'adulte dans la place, dans la place, peut-être la seule du reste, veille désormais à ce que ceux qui savent puissent rencontrer le président des États-Unis. Les militaires sont maintenant, je dirais, remontés d'un cran, puisqu'encore une fois, ils ont réussi cette opération. J'espère qu'ils sauront convaincre le président des États-Unis qu'il vaudrait mieux maintenant arriver à un cessez-le-feu plutôt que ces foucades qui n'ont strictement aucun sens. Parce qu'encore une fois, si jamais il fait ce qu'il dit, c'est-à-dire qu'il commence à détruire et les ponts et les centrales électriques, on rentre dans des zones grises, celles des crimes contre l'humanité. Il faut faire très attention. Et il faut être bien conscient que les Iraniens ont démontré de façon très précise qu'ils vont taper en réciprocité, et là, peut-être dans des usines de dessalement, dans des infrastructures qui sont des infrastructures civiles, et ce serait évidemment l'embrasement. Il faut tout faire, évidemment, pour l'éviter.
Et
il faut vraiment qu'on puisse jouer, et nous, les Européens, de toute notre force diplomatique pour éviter cette
invasion. On va venir au rôle de la France, mais effectivement, vous le disiez à l'instant, sur le terrain, aucun signe de désescalade, puisque ce matin, encore, Téhéran a visé avec ses missiles et ses drones Israël, le Koweït, les Émirats Arabes Unis. Quand vous dites qu'il faut qu'ils trouvent une porte de sortie, est-ce que c'est parce qu'à vos yeux, aujourd'hui, c'est une guerre ingagnable pour les États-Unis?
C'est une guerre asymétrique, je l'ai dit. D'un côté, vous avez effectivement les Iraniens, et il faut toujours les dire désormais, et ses alliés, car ses alliés sont là. Donc encore une fois, c'est beaucoup plus que les Iraniens. Donc ils se sont organisés sur un temps long et dans ce conflit asymétrique, c'est-à-dire une guerre de flux d'un côté contre une guerre de stock de l'autre côté. Ben vous savez, l'histoire nous apprend que dans ce cas-là, ceux qui ont l'horloge en main, ben ce sont plus les États-Unis, c'est l'Iran. L'Iran s'est organisé, ils sont organisés sur un temps long. Et la guerre asymétrique, ça a aussi des impacts très forts dans les populations, sur l'économie. Le gallon à 4,10 $ aujourd'hui aux États-Unis, songez que le prix de l'essence aux États-Unis, il a monté de 45% depuis le début des hostilités.
15% pour la France, effectivement, c'est beaucoup plus. Aux États-Unis. Vous parliez de la position, effectivement, de la communauté internationale. Est-ce que le président français, Emmanuel Macron, a raison de rester à distance, de marteler que ça n'est pas notre guerre, quitte à être pris pour cible par Donald Trump, qui juge que la France n'est pas assez coopérative?
Oui, il faut arrêter de rester pris pour cible. Je suis bien placé pour le savoir. Il faut continuer à faire ce qu'on a à faire et à dire ce qu'on a à dire. Car encore une fois, la démocratie, c'est ça. Le président de la République, il a eu parfaitement raison. Il a eu, encore une fois, un comportement qui a été le comportement, à mon avis, qui était absolument celui que nous devions avoir. Je rappelle que nous avons envoyé en Méditerranée septentrionale, au large des côtes chypriotes, le porte-avions Charles de Gaulle, plus, encore une fois, une escadre de destroyers qui sont européens. Et pourquoi, Guillaume Daré? Parce que, voyez-vous, pour nous, Européens, la parole, ça compte. Nous, on tient nos engagements. Nous avons un engagement entre nous qui s'appelle l'article 42.7 des traités. Quand un pays européen est attaqué, or Chypre a été attaqué par des missiles, on doit aller le défendre. Quand des pays avec lesquels nous avons des alliances, je pense en particulier des pays du Golfe et les Émiratis, sont attaqués, nous avons des alliances. On respecte les alliances. Eh bien, les États-Unis aujourd'hui, croyez-moi, désormais, on s'interroge vraiment sur leur capacité à les tenir. C'est ça le monde qui se recompose. Donc oui, nous avons une place à jouer et nous la jouons. Mais encore une fois, là où on est, c'est vrai, on n'a pas du tout.
Mais nous sommes toujours les alliés des États-Unis.
Bien entendu, nous sommes les alliés, en particulier dans le sein de l'OTAN. Mais il faut se faire respecter, faire entendre. Allié, Guillaume Daré, ça ne veut pas dire vassal.
Vous évoquiez il y a quelques instants évidemment les conséquences économiques. D'après un calcul de l'AFP hier, le prix du diesel moyen en France c'était 2,30 €. Certains ont du mal à employer ce mot-là. Roland Lescure, le ministre de l'économie, est revenu sur une déclaration. Est-ce que pour vous, oui ou non, c'est un choc pétrolier?
Parce que les chocs pétroliers, on est aujourd'hui à un prix du baril qui est à un 10, un 12, je crois, ce matin. Tant qu'on n'est pas en dessous d'un 20, les choses, on va pouvoir les gérer. À partir d'un 20, on rentre un peu dans un autre monde. Donc on n'est pas très loin.
Autour des 110 dollars ce matin, effectivement.
Voilà, 110. Hein. Donc on est à 110 un petit peu au-dessus. À 120, ça commence à devenir effectivement...
C'est une crise durable parce qu'on voit les pays du Golfe qui disent il va nous falloir des semaines, des mois pour reconstruire justement les installations qui ont été touchées. Est-ce que les Français qui nous écoutent doivent eh bien, se préparer à des mois payer un prix du diesel à plus de 2,30 €.
Eh bien, on l'espère tous que non. Et cette crise, elle est due par la faute, ou je dirais l'origine, c'est qui ? C'est un homme. Cet homme s'appelle Donald Trump. C'est une crise qui est une crise artificielle. Parce qu'encore une fois, la production, elle est là.
Sauf que nous en payons tous le prix aujourd'hui.
On a payé tous le prix. Et c'est la raison pour laquelle il est temps, je dirais, de revenir à la raison. Alors encore une fois, on est tous pour que ce régime des mollahs tombe, bien entendu. Mais on voit qu'il s'est organisé. Il faut maintenant, évidemment, appeler un cessez-le-feu. Je pense que c'est ça, évidemment, la bonne démarche. On commence à en parler.
On parle effectivement d'un projet de travail de 45 jours pour négocier une paix durable ensuite.
Mais je le répète, encore une fois, celui qui a les clés s'appelle Donald Trump. Il est lui. Alors, avant de parler peut-être, alors on est très concerné. Vous parlez de 2,30 €. J'étais dans la Creuse la semaine dernière. J'ai vu effectivement sur l'autoroute certaines stations à 2,40. Tenez-vous bien pour le gasoil.
Certains parlent même peut-être d'un prix du gasoil à 3 € dans quelques jours, dans quelques semaines. Face à cette crise, le gouvernement promet de nouvelles aides en ce début de semaine. Il y a déjà eu des aides ciblées, un paquet de 70 millions d'euros. Le RN réclame la baisse des taxes. La France Insoumise, le blocage des prix, c'est quoi la bonne solution pour vous ?
Il n'y a qu'une seule solution, Guillaume Daré. C'est le fait que tout ce que l'État va gagner, entre guillemets, grâce à cette crise ou à cause de cette crise, notamment parce qu'il va gagner un peu de TVA, soit restitué à l'euro près à ceux qui en ont le plus besoin. J'ai fait les calculs.
Le gouvernement dit on a gagné un peu plus de 230 millions, mais on en a perdu plus de 400 également.
J'ai fait les calculs, le gouvernement a raison, donc ces 230 millions, il faut les restituer. Ça crée une enveloppe pour qui ? Évidemment pour ceux qui en ont le plus besoin, les agriculteurs, les marins-pêcheurs, bien sûr tous ceux qui ont besoin de leur voiture, on pense en particulier à ceux qui ont un besoin pour aller travailler.
Les infirmières libérales,
les infirmières
exemple.
Libérales, ceux qui vont aider.
Mais pas d'aide générale.
L'aide générale certainement pas, mais vous savez pourquoi ? Parce qu'on a plus les moyens. Parce qu'on a juste plus les moyens. On est aujourd'hui le pays qui devient le pays le plus endetté, bien en valeur, ça c'est certain, d'Europe, et bientôt également en pourcentage. On est le seul pays des pays européens qui n'arrive pas à avoir un budget en dessous de 5% de déficit. C'est-à-dire créer 170 milliards de plus de dépenses tous les ans que ce qu'on gagne. C'est juste plus possible.
On n'a pas les moyens, mais ceux qui nous écoutent disent, se disent ce matin, on n'a pas les moyens de peut-être remplir, le plein d'essence, tout à l'heure, quand on va aller à la station-service.
C'est la raison pour laquelle il faut être sélectif. Nous sommes évidemment un peuple. Il faut être attentif à ceux qui en ont le plus besoin. Il y en a d'autres qui peuvent faire des efforts. Il faut être sélectif. J'ajoute...
Rigoureux sur le plan économique en même temps, c'est ce que vous dites.
Mais bien entendu. Mais pourquoi ?
Avec une règle particulière sur le déficit.
Mais c'est la raison pour laquelle je pousse moi-même, parce qu'encore une fois, la France n'est plus capable depuis maintenant des années de tenir ses engagements, de tenir, encore une fois, sa parole. Donc, je propose le fait que pour la prochaine présidentielle, on serait tous d'accord, comme les Allemands l'ont fait en 2009, pour nous obliger, à l'horizon 2032, c'est pas demain, de limiter notre déficit à 1% de déficit, de façon à redonner la crédibilité dont la France a besoin pour pouvoir exister vis-à-vis de ses partenaires, mais aussi vis-à-vis des marchés financiers. Songez aujourd'hui qu'on va avoir 100 milliards par an d'intérêts à payer, et on les paye aujourd'hui 80 points de base de plus que l'Allemagne, tout simplement parce qu'on est incapable, il y a une prime de risque sur la France, parce qu'elle est incapable de tenir ses budgets. Donc c'est la proposition que je fais, c'est une proposition qui n'est absolument pas une proposition très contraignante, elle est très étalée dans le temps, mais elle nous redonnera la crédibilité pour que la France retrouve sa parole et maîtrise son destin.
Est-ce que l'État est un profiteur de guerre comme le dénonce Marine Le Pen ?
Certainement pas, et je suis tout à fait contre ce type de mots excessifs. L'État n'est pas un profiteur de guerre, l'État a démontré qu'il était capable de le faire, il en a du reste un peu trop fait. Songez que la dernière crise, c'était 70 milliards qu'on a donné, vous vous souvenez, pour faire face au choc énergétique. Les Français n'en sont pas très reconnaissants, mais par contre, le déficit et la dette, elle est là. Donc non, l'État n'est absolument pas un profiteur de guerre. Je crois que on a réussi maintenant, avec les instruments qui sont les nôtres, à expliquer que les surplus qui sont créés vont être redistribués à l'euro près à l'ensemble de celles et ceux qui en ont le plus besoin. J'ajoute que pour les compagnies pétrolières, il est hors de question, évidemment, qu'il y a aussi de l'enrichissement indu. Donc il faudra aussi aussi, je salue du reste les efforts qu'on fait Total et tout le monde l'apprécie. Donc faire en sorte que quand on a un peu de surplus, eh bien on l'utilise pour pouvoir faire en sorte là aussi d'aider celles et ceux qui
Thierry
en ont
Breton,
besoin.
Jamais une campagne présidentielle probablement ne sera déroulée dans un tel climat d'incertitude. À quoi est-ce qu'il faut s'attendre et qu'est-ce que ça dit de la campagne que nous allons vivre dans les prochains mois?
Eh bien ça dit que plutôt que d'essayer de savoir qui sera celle ou celui qui sera l'homme providentiel ou la femme providentielle, commençons par travailler sur un projet providentiel, un projet qui nous réunisse plutôt qu'il nous divise. Modestement, c'est précisément ce à quoi je m'attelle avec cette proposition.
Vous allez y vous prendre part, votre part à ce débat sur présidentiel.
Sur le projet, oui, parce que je suis concerné. Il se trouve que là aussi, j'ai cette expérience. J'ai baissé l'endettement de la France avec Jean-François Copé lorsque nous étions aux affaires. On sait comment faire. Non pas parce qu'il faut le refaire nous-mêmes, mais tout simplement parce que de cette expérience, on a appris ce qu'il fallait faire pour remettre la France sur les rails qui en a tant besoin.
Vous avez des contacts avec les différents candidats ou c'est vous qui pourriez porter cette proposition et ces propositions-là?
J'ai des contacts avec les différents candidats et je les vois tous, les uns après les autres. Bien, je le dirais, je ne suis pas là pour faire du name dropping comme on dit, mais croyez-moi, je les vois et j'essaie de leur expliquer encore une fois la raison pour laquelle il me semble que sur cette question-là, nous devrions créer une union sacrée parce que c'est la seule façon dont la France pourra, me semble-t-il, remaîtriser son destin.
Vous pourriez vous les lancer dans une candidature à l'élection présidentielle poser vos propositions sur la table?
Je suis en train de vous dire que c'est pas du tout le sujet. Le sujet, c'est le programme providentiel. C'est là où, modestement, je vais tout faire pour apporter ma contribution dans les finances publiques et puis dans ce que je connais bien aussi. C'est la place de la France dans l'Europe.
Merci beaucoup, Thierry Breton, d'avoir été notre invité ce matin sur BFM TV et RMC.
Ne bougez pas sur RMC dans un instant face à Canteloup et en ce lundi de Pâques, Nicolas Canteloup revient sur l'actualité politique de ces dernières semaines.
RMC, Apolline Matin,
8h50, face à Canteloup.
Et cette semaine, Nicolas Canteloup, vous revenez sur le nom choisi par Emmanuel Macron pour le nouveau porte-avions français.
Bonjour à tous, à celles et ceux et celles qui sont amis du porte-avions, oui. Et bonjour à vous, chère Arlette Chabot.
Oh bah non, c'est un peu
hein? Non. Ah oui, pardon. Non, parce que comme des millions de Français, j'ai suivi le débat que vous avez brillamment animé hier soir. Et c'est vrai que vous étiez toute fraîche hier soir. Je n'ai pas les mots. D'habitude, j'ai un champ lexical très large, mais là, les deux mots qui me viennent, c'est juste Arlette et Chabot. Voilà. Bref, vous avez vu le nom que j'ai trouvé pour notre nouveau porte-avions, le France Libre, hein, qui évoque bien sûr la liberté, un navire qui viendra au secours des pays opprimés, et du coup nous aurons également un nouvel hymne. Libéré. Oui, on s'adapte.
Alors vous avez fait part de votre mécontentement hier au sujet des municipales et critiqué les arrangements entre partis.
Non mais écoutez, que vous votiez comme des cons, ça j'ai l'habitude. Après tout, si ça vous amuse de mettre des insoumis à Roubaix, pourquoi pas, ça vous regarde. Moi, c'est pas moi qui vis là-bas, hein, de toute façon. Mais par contre, ne magouillez pas de cette façon, les partis, je vous le dis, les partis, ça fait tambouille, c'est ridicule. Mais oui, quand on a un résultat électoral qui ne vous plaît pas, c'est pas compliqué, vous faites comme moi. Vous l'ignorez.
Ah oui. Chez les socialistes, l'ambiance est explosive hein, suite à la stratégie d'Olivier Faure pour les municipales.
Oui.
François Hollande, tiens, vous êtes très sévère avec son idée de s'allier aux insoumis. Hein.
Je pense, Robert Bizard, je pense que le premier secrétaire socialiste a fauté. Olivier Faure, oui. Vous savez, Madame Malherbe, en ce jour très particulier, je suis néanmoins, je dois vous le dire, affecté. Je suis dans l'émotion, dans le deuil.
Dans le deuil, j'imagine, bien sûr, affecté par la disparition de Lionel Jospin.
Mais non, mais ça, je m'en fous. Il est mort le 21 avril 2002, Jospin. J'ai eu le temps d'encaisser. J'ai eu une épée. Rappelez-vous que j'ai été président de la République. Chose que j'aime à rappeler dans toutes mes interviews. Non, ce qui m'affecte, c'est que Tulle a basculé à droite. Et Tulle, c'est quand même pas rien. Et Tulle, allons, Tulle. La préfecture de la Corrèze, la capitale de la Hollandie, principauté de Hollande. Pour un week-end, n'avez-vous jamais hésité, Mme Malherbe, entre Rome, Venise ou Tulle?
Non, j'avoue, non, j'ai pas hésité, non.
Oui, bah vous, en même temps, vous aimez aller au Mans. Donc, vous n'y connaissez rien en ville tendance.
Ça doit être ça. 60% des 25-34 ans n'ont pas voté au municipal.
Eh bien, je dis merci les jeunes. Bravo les kids.
Oh, Edouard Balladur. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu.
Oui, mais écoutez, j'étais persuadé que j'étais mort.
Et puis en fait, j'ai vérifié sur Wikipédia. Et en fait, non, pas du tout. Je suis toujours vivant. Donc j'ai, oui, j'ai un petit peu de naphtaline, pardon. J'ai décidé d'intervenir solennellement pour remercier la jeunesse de France dont le comportement a été admirable lors de ces élections.
Pour remercier donc ceux qui se sont déplacés.
Non, je remercie ceux qui sont restés chez eux. Donc je dis merci par votre abstention, chers jeunes, d'avoir respecté quelque part vos anciens. Merci de ne pas être venus nous casser, nous briser nos modes de vie, nos habitudes avec vos problématiques bidons de je ne sais quoi, de chômage des jeunes, de réchauffement climatique, d'addiction aux réseaux sociaux, paraît-il. Grâce à votre abstention, rien ne change. C'est toujours nous, les vieux, qui décidons. Et c'est très bien ainsi, parce que vous, les jeunes, vous êtes trop cons.
Oh, vous pouvez pas les traiter de cons quand même, monsieur Balladur.
Mais bien sûr que je peux, bande de cons. Ben oui, s'ils étaient pas cons, ils iraient voter. En tout cas, continuez comme ça. Je vous demande de ne pas vous arrêter.
Merci, monsieur Balladur. Et puis c'est une grande première, Arnaud Montebourg aura sa mission tous les vendredis sur BFM. Ce sera à 19h, ça s'appellera Made in Montebourg.
Salut la Pauline, salut David, salut Arnaud, salut les belles, ceux que je connais. Hein, voilà, Mumu, elle est là-bas au fond, oui, ça va. Made in Montebourg, ça sonne.
Vous en aviez hein,
ça donne envie, hein, rien que le nom. Ils ont eu le nez creux, les chasseurs de tête de chez BFM, de me recruter. Hein. Bon. Ils n'ont pas eu besoin de chasser très longtemps, j'attendais devant la porte.
Oui.
Hein, devant la porte, en bas de la porte, avec mon carton sous mon duvet. Et je peux te dire que je la mérite cette émission, parce que ça caille à 7h du matin quand t'attends.
Vous avez eu, après été ministre, eu une activité professionnelle très riche, très variée.
Ah, riche, oui, variée, oui. Oui, j'ai travaillé dans le meuble, hein, dans le miel, dans les glaces, dans les amandes, aujourd'hui le nucléaire. Mmh. Alors forcément, tu te dis, ça part dans tous les sens.
Un petit peu, j'avoue.
Mais il y a un fil conducteur à tout ça, tu vois. C'est que je me cherche. Ben oui.
Vas-y, cherche-toi.
Je suis comme les... Ben oui, mais
ça s'appelle l'adolescence.
Ben oui, qu'est-ce que tu veux, Marchand, voilà. Je suis comme les abeilles, hein, un calfa. Je butine à droite, à gauche, voilà. Hein. Mais ma force, c'est que même si je réussis nulle part, tu vois, je continue d'essayer partout. D'ailleurs, notre devise chez les Montebourg, c'est même si tu te gourres, tu t'inquiètes pas, ce qui compte, c'est le discours.
Ah oui.
Et je peux te dire que sur BFM, le Arnaud... Il va pas faire de l'eau tiède dans le poste. Parce que tu remarqueras un truc, nous les anciens ministres, dès qu'on n'est plus au gouvernement, tout de suite, on devient beaucoup plus compétents.
Ah bah c'est sûr. Donc, vous faites de la télé maintenant.
Ah mais la télé, je peux tout faire la télé. Tu vois, des chiffres et des lettres. Question pour un champion, je pourrais tout faire. Éducation pour un champion, tu sais, je te le fais. Bravo Jean-Paul, vous avez gagné un dictionnaire sur les papillons nocturnes.
Ah oui, vous le faites bien.
Ouais. Le plus grand cabaret du monde, tu vois, le plus grand cabaret. Même Fort Boyard, mon concept, je le fais, tu vois. Je prends Louis Boyard, j'enferme dans un fort.
C'est bon, et puis vous pouvez faire quoi d'autre?
Et puis c'est tout. Hein. Ah oui, bon, ça fera pas une émission très longue, mais ça fera plaisir à tout le monde. Avant de te quitter, tu vois, Pauline, avant de te quitter.
Oh,
ferme les bouilles. Et ça, il vient de comprendre. Il comprend tous les 20, 10 secondes après, là, pour la Pauline. C'est ça qui fait l'aise.
Oh, écoutez, je suis fatiguée. Oh.
Et tu vois, je vais te dire, avant de te quitter, Pauline, je voudrais avoir une pensée pour un gars. C'est le gars Alain Marchand, tu vois.
Tiens.
Parce que passer derrière moi, c'est difficile. Surtout avec un petit sommaire des GG où à tous les coups, il va encore parler du prix de l'essence. Allez, vas-y, mon Alain, fais-nous rêver.